Bonsoir chers amateurs sportifs, auditeurs de VOA Afrique, bienvenue dans Sporama, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout ce qui fait vibrer le monde du sport. L'année 2024 a connu beaucoup d'activités pour le sport mondial avec des compétitions qui secouent à la fois l'Afrique et le reste du monde. Entre les éliminatoires du CHAN, les grandes épreuves continentales et mondiales, la montée en puissance du football féminin et les évolutions stratégiques dans les clubs européens et africains, le paysage sportif connaît de nombreux rebondissements, de plus des événements comme la Ligue des champions de la CAF et de la Coupe du monde féminine des U20 font écho à un renouvellement des dynamiques compétitives alors que l'Afrique voit ses grandes nations comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire tomber. D'autres comme la RDC, le Soudan et le Sénégal affichent une régularité impressionnante. Eric Manilakiza est avec vous au micro. Gisèle Morissin assure la réalisation de cette édition. Nous aborderons tous ces sujets et bien d'autres avec nos consultants sportifs pour une analyse poussée des moments marquants de cette année sportive. Amine Birouk est avec nous en ligne. Amine, bonsoir.
Bonsoir et bienvenue à Casablanca, Marc.
Ahmedine Sy, bonsoir.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et Élisée Ongpatine, bonsoir Élisée.
Bonsoir Eric et bienvenue à Boyko au Bénin.
Merci beaucoup Jules Valentin Ngwe avec son sifflet. Bonsoir Jules.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Est-ce que le sifflet va siffler la fin de l'année ou le début de la nouvelle année?
Bien sûr, c'est que vous allez l'entendre.
Merci. Alors, Jules, le Cameroun et la Côte d'Ivoire ont été éliminés des éliminatoires du CHAN 2025 alors que la RDC, le Soudan et le Sénégal semblent plus réguliers. Quel impact ces surprises ont-elles sur la scène footballistique africaine?
Mais il faut d'abord dire que c'est une bonne chose. C'est ça justement le CHAN, c'est les joueurs jouant au pays et qui, en quelque sorte, reflètent le niveau du football profond avec le phénomène de la mondialisation. Il faut bien prendre le pouls au pays. Donc, ça a été une surprise pour le Cameroun et la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont gagné le match aller. Et donc, en fait, c'était presque une formalité. Le Cameroun a ouvert le score en plus au match retour et dès la 21e minute, s'est fait rattraper à 2 minutes de la fin de la seconde et de la première mi-temps et a été qualifié pendant une grande partie du match pour se faire damer le pion à 2 minutes encore de la fin de la rencontre. Donc, il y a un manque criant de coaching rationnel de l'entraîneur. Il y a des moments sensibles pendant la rencontre où quand on cherche un nul, on ferme tout. Alors, donc, on comprend pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que tout cela donne des leçons.
Mmh. Élisée, quels sont, selon vous, les éléments qui expliquent, disons, la régularité des équipes comme la RDC, le Soudan ou le Sénégal lors de ces qualifications et quelles sont leurs forces en compétition internationale?
Ouais, je vais commencer d'abord par le Sénégal. Vous imaginez que le Sénégal a qualifié toutes ses équipes nationales pour les différentes compétitions qui auront lieu en 2025, et les seniors, les espoirs, les locaux, les juniors, les cadets, et donc c'est un travail qui a été abattu, un travail qui a commencé il y a de cela quelques dizaines d'années. Donc aujourd'hui, le Sénégal est fréquent presque sur tous les tableaux hein, quand il s'agit du football en Afrique. La seule déception, c'est au niveau des clubs. Ahmedine Sy ne me dira pas le contraire. Il y a encore un cap à franchir. C'est vrai que entre-temps, nous avons vu les Tengues, nous avons vu Djaraf ou encore Génération Foot qui sont qualifiés pour les phases de poule des interclubs de la CAF, mais ces clubs ne sont pas souvent réguliers. L'autre chose, la RDC, qui est un championnat est quand même super bien animé, même si bon, on ne peut pas comparer à ces championnats, notamment sur le continent comme le championnat marocain, égyptien, et sud-africain, même le championnat tanzanien. Vous imaginez la RDC, un championnat très animé avec comme tête de train le TP Mazembe. Vous allez remarquer que depuis un certain moment les corbeaux de Lumbashi peinent sur le continent, ça rejaillit automatiquement sur la sélection nationale. Aujourd'hui, c'est vrai que l'ASV Club de Kinshasa est en train de faire un effort considérable, mais c'est pas encore ça. L'AS Manema, le club de Kindu, qui vient remplacer l'ASV Club derrière le TP Mazembe. Donc, ce sont des championnats qui, quand même, s'animent très bien, contrairement au championnat soudanais qui est aux arrêts, même si les deux grands clubs, les deux géants de la capitale, Al Hilal et Al Merrekh, évoluent dans le championnat mauritanien cette année. Nous avons vu Al Hilal qui domine sa phase de groupe en Ligue des Champions, donc ce n'est pas un hasard. C'est quand même un travail bien concocté depuis des années et que ces clubs sont souvent fréquents dans les compétitions africaines des clubs. Donc parce que il s'agit des joueurs locaux qui évoluent dans le championnat de leur pays. Et aujourd'hui, c'est la déception concernant le Mali et le Ghana. Deux fois finaliste déjà, la première édition, le Ghana était déjà finaliste puisque battu par la RDC. Le Ghana a aussi joué la finale et deux ans plus tard battu par la Libye. Le Mali qui a été finaliste en 2016, si j'ai bonne mémoire, battu justement par la RDC, puis récemment finaliste du côté du Cameroun, battu par le Maroc. Ces deux grandes nations de football sur le continent ne seront pas du rendez-vous, donc vous imaginez, c'est un peu, ça change un peu puisqu'il y a un nivellement de valeur sur le continent. La Mauritanie qui continue de surprendre, la Mauritanie qui fait de cette compétition une priorité pour que la Mauritanie est souvent fréquente, et donc voilà un peu ce qu'on peut retenir de cette édition de 2025.
Ahmedine, l'élimination de grandes équipes comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire peut-elle signaler un déclin des grandes puissances africaines du football ou est-ce un simple accident de parcours?
Bon, je ne dirais pas accident de parcours, comme l'a dit si bien Élisée, hein, c'est un nivellement de valeur vers le haut. Si vous regardez bien cette compétition, c'est réservé aux joueurs qui jouent dans le championnat. Alors qu'il y a des pays comme le Sénégal, bon, il y a une exception sénégalaise, pour le dire comme ça, puisque les pays qui ont la majeure partie de leurs joueurs en étranger sont un peu défavorisés par rapport à cette compétition. Puisque au Sénégal, on a eu quand même ce problème à bâtir une équipe nationale locale compétitive. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, en championnat, tous les bons joueurs, après avoir fait une bonne saison, ils signent un contrat professionnel. Donc, on perd les bons joueurs. Je ne sais pas comment, par miracle, le Sénégal a fait pour pouvoir gagner le CHAN lors de la dernière édition, puisque les clubs, Élisée l'a dit, les clubs ne brillent pas en Afrique. Et soudainement, c'est l'équipe nationale locale qui part et qui gagne ce championnat réservé aux joueurs locaux. J'arrive pas à avoir une explication par rapport à ça. Mais ce que je peux dire par rapport à ça, les pays qui ont la majeure partie de leurs joueurs à l'extérieur sont défavorisés par rapport aux pays qui ont vraiment leur bonjour qui joue dans leur championnat. En tout cas, pour moi, c'est une très bonne chose de voir des pays comme la Mauritanie qui a un travail colossal réussir à se qualifier encore pour ce CHAN. D'ailleurs, un exemple patent, la Mauritanie, lorsqu'elle avait éliminé le Sénégal lors du CHAN, mais c'était une victoire fêtée par tout le peuple. Et ce match a été même suivi par le président de la République. Donc, ce qui me conforte dans cette dynamique, c'est comme ce que vient de réussir quand même la République centrafricaine, qui sort quand même le Cameroun, qui est un géant d'Afrique. Et ce qui s'était passé pour la Mauritanie, c'est aussi passé pour les centrafricains qui ont fêté cette qualification à la hauteur de l'événement. Mais pour me résumer, Castéka de Sénégal, détenteur du titre, sera bel et bien présent pour cette édition.
Amine, le quatrième tour de la Ligue des champions de la CAF approche. Quel tournant majeur attendez-vous dans cette compétition et quelles équipes semblent en position de réaliser un exploit?
On va commencer par l'équipe de l'Ali, tenant du titre, qui a 7 points sur 9 possibles et qui a la possibilité de se qualifier en cas de bons résultats en Algérie face à l'équipe de Belouizdad. Il y a aussi la possibilité de voir l'AS FAR et Mamelodi Sundowns également composter leur ticket. le club marocain affronte Maniema de la RDC, une victoire alliée à un bon match nul de Mamelodi Sundowns, encore une victoire du club sud-africain face au Raja de Casablanca à Casablanca serait synonyme de qualification pour les deux clubs qui ont besoin bien évidemment à un moment ou à un autre de pouvoir se rassurer après avoir réussi à amasser 5 points sur 9 possibles. Cette possibilité donc existe, il va falloir voir ça samedi prochain. Il y a également la possibilité de voir l'équipe de l'Espérance de Tunis se rapprocher des quarts de finale et le club de l'Espérance qui a réussi pour l'instant également un 7 sur 9 et qui semble en mesure d'aller le plus loin possible dans la compétition puisque l'année dernière, les Saints et Or avaient réussi à atteindre le stade de la finale, s'inclinant de justesse face à l'Ali. A priori, avantage pour les clubs d'Afrique du Nord. Un petit regard pour Mamelodi Sundowns, qui est toujours bien placée, mais qui n'est jamais gagnante. Et puis, on se demande dans quelle mesure un club comme le Raja de Casablanca, qui traverse une grave crise sportive et financière dans le football marocain, est capable de tenir son rang. Un club qui a été récemment demi-finaliste en 2020, qui a gagné à deux reprises la Coupe de la CAF lors des dernières années, mais qui semble largement en retrait par rapport à ce qu'il a apporté dans le championnat marocain, où il avait réussi la saison dernière un doublé Coupe Championnat en terminant la saison invaincu.
Jules, le football africain semble être en pleine transformation, notamment au niveau des clubs. Quels sont les défis actuels pour les clubs africains sur la scène continentale et internationale?
Oui, il faut dire que là, nous avons deux niveaux à présenter. Au niveau continental, le vrai problème, c'est la professionnalisation des équipes africaines. Bon, la mayonnaise tarde à prendre. Il y a quelques pays qui l'ont réussi. En Afrique du Nord, c'est la locomotive de l'Afrique. Ça a marché. Mais nous avons le cas du tout-puissant Mazembe. Nous avons l'Afrique du Sud. On a également en Tanzanie quelque chose de bien qui se fait. Mais les grosses nations comme le Cameroun, comme le Nigeria, comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, ont de la peine, en fait, puisent essentiellement leur potentiel actif à l'extérieur, c'est-à-dire chez les joueurs de leur pays qui sont professionnels ou alors des nationaux devenus citoyens en dernière minute à cause du football. Bon, donc c'est ça le problème. On est donc à la croisée des chemins, mais on ne peut pas faire autrement. Il faut professionnaliser notre football continental avec rigueur et on aura toujours cette pépinière qui donne les meilleurs joueurs du monde, en fait, que ce soit dans la diaspora ou bien sur le continent.
Amine, l'élimination des grands noms dans les compétitions africaines ou mondiales soulève-t-elle des questions sur la préparation et les infrastructures des équipes nationales africaines? Comment ces équipes peuvent-elles s'adapter pour revenir au sommet?
Vous voulez parler des équipes ou des clubs? En tout cas, il y a un problème, ou une grosse problématique, c'est la problématique des infrastructures, ou plutôt des stades qui ne sont plus aux normes de la CAF. Et vous pouvez le constater, puisque lors des dernières éliminatoires de la CAN ou de la Coupe du Monde, plus de la moitié des nations africaines ont pu recevoir devant leur public. Imaginez des nations comme le Burkina Faso, obligées de se déplacer à Bamako, ou encore la Guinée, qui délocalise ses rencontres du côté d'Abidjan. Imaginez aussi tous ces pays qui sont obligés de faire ces longs voyages pour pouvoir disputer des rencontres avec un handicap et d'autres qui ont les infrastructures et qui ont la possibilité, il faut le rappeler, de jouer quasiment toutes leurs rencontres à domicile moyennant des conventions ou des accords avec ces fédérations qu'elles reçoivent. Imaginez le Maroc, par exemple, a joué 5 de ces 6 rencontres éliminatoires de la CAN que le Maroc, que le Royaume chérifien va organiser à domicile. Imaginez aussi l'Afrique du Sud qui a cet avantage, ou encore des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont, avec le Cameroun, la possibilité de recevoir des nations comme la Centrafrique, bien son voisine, à domicile, moyennant une compensation ou un accord. Aujourd'hui, le football africain doit se mettre à niveau au niveau des infrastructures. On parlait du plan Marshall pour les terrains de football, qui était un des leitmotivs du candidat Patrice Motsepe. Ce projet ambitieux n'a toujours pas vu le jour et aujourd'hui, c'est un des véritables talons d'Achille du football africain. Les supporters ne pouvant accueillir leur équipe nationale et les encourager. Les moyens de se déplacer pour aller disputer les rangs, pour aller encourager ces équipes nationales, c'est compliqué en Afrique vu les liaisons aériennes et ça crée donc une différence entre des nations puissante financièrement, qui dispose de l'infrastructure et du savoir-faire, et d'autres qui ont perdu leur repère à ce niveau-là.
Vous suivez donc Sporama, votre rendez-vous sportif hebdomadaire sur VOA Afrique. Nous parlons des événements sportifs sur l'année 2024 en Afrique. Élisée, je viens vers vous. La Coupe du Monde féminine des U20 a été un véritable tournant pour le football féminin en Afrique. Quelle est l'importance de cette compétition et en quoi peut-elle changer la donne pour les générations futures?
Oui, Eric, le football féminin, c'est de ça il s'agit.
Oui, je vous écoute.
Oui, voilà. Le football féminin sur le continent, on a, c'est clair, vous-même vous l'avez vu, on a du retard et c'est à ce niveau-là qu'il faut commencer par travailler. Et ce que le Maroc a compris, parce que à chaque fois il faut prendre ces exemples-là, le Nigeria a longtemps dominé cette discipline sur le continent. À un moment donné, eh bien, le Nigeria est relégué en deuxième position ou en troisième position, puisque même la Guinée équatoriale qui avait remporté aussi la Coupe d'Afrique des Nations, vous vous rappelez, ne fait plus peur sur le continent. Aujourd'hui, il y a le Maroc et l'Afrique du Sud qui font l'exception. Et il y a aussi la Zambie qui commence pas quand même à mettre sur pied quelque chose de très bien. Donc, si nous voulons aller très loin dans cette discipline, lors du dernier mondial U20, nous avons vu les difficultés qu'ont connues les différentes sélections africaines qui ont participé, qui ont pris part à cette compétition. Aujourd'hui, il faudra bien former. Comme on forme chez les hommes, il faudra aussi bien former aussi chez les dames, ce que le Bénin a compris, et un centre est en train d'être construit à l'ouest du pays, au niveau de la frontière Bénin-Togo, à Lokossa pour être précis. Donc il faudra commencer par former pour espérer avoir un meilleur résultat dans les années à venir.
Jules, en une minute, sur la même question.
Oui, en fait, dans le football féminin, généralement, il y a un problème d'âge, c'est-à-dire que les filles ne jouent pas assez longtemps et rentrent vite dans leur vie de femme. Alors, il se pose souvent un problème de relève. Donc, c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir des équipes comme le Cameroun, comme le Maroc, comme le Nigeria, nous présenter des bonnes équipes de jeunes.
Et la Zambie aussi.
Cette Coupe du Monde, oui. Dans cette Coupe du Monde, et notamment la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et donc, ça veut dire que la relève est là et que les Africains ont compris que le football est une opportunité de réussite dans la vie et tous les parents sont prêts à envoyer leurs enfants, qu'ils soient hommes ou femmes, faire du sport et en particulier du football. Si on peut y réussir, on gagne sa vie et plus même, et on fait que plus que gagner sa vie. Et donc, je crois que c'est une bonne chose. On est sur la bonne route.
À Médine, la CAN 2024, c'était un événement très attendu. Cependant, selon vous, quel est l'impact de la Coupe d'Afrique des Nations sur le football africain et sa place dans le monde, notamment celle qu'on a connue en janvier?
Comme vous le savez d'abord, la CAN, c'est la grande messe du football continental. C'est une fête pour l'Afrique et les jeunes africains, les sportifs. C'est une grande fête. Et comme vous l'avez dit en Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, ça s'est très bien passé sur le plan populaire. On a vu quand même les gens communier. On a vu ce qui s'est passé avec sur le rectangle vert également, le Cameroun qui était mal parti, la Côte d'Ivoire qui était mal parti, un ressuscité qui a fini par gagner cette compétition. C'est ça, c'est pour ça qu'on aime le sport, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Maintenant, sur le plan mondial, bon, on attend de voir. Il y a des choses qui se passent en Afrique et vraiment, on n'a pas encore concrétisé ça. C'est vrai que le Maroc a été demi-finaliste pour la première fois de l'histoire, ce qui est extraordinaire, mais je pense que l'Afrique mérite mieux. La preuve, quand on voit le ballon d'or africain de cette année, je veux parler de Lookman qui fait les beaux jours de Atlanta, qui à lui seul a presque donné la Coupe Europa à l'Atlanta. Quand on voit un jeune comme Sidou Guirassy, ce qu'il fait au niveau de son club, que ce soit à Stuttgart ou à Dortmund, vraiment c'est un élément incontournable. C'est pour cela qu'on attend mieux des pays africains.
tout ce que ces jeunes Africains font au niveau du continent européen, qui, comme le dit Jules, mais c'est la vitrine du football mondial, les meilleurs joueurs.